connaître un petit peu plus d'ici un petit moment. Mon nom est Daniel Ducommun et je fais partie du conseil de cette église. Je suis ancien dans cette église depuis de très nombreuses années. Les plus jeunes parmi nous n'étaient pas encore nés quand j'étais déjà ancien. Vous imaginez l'ancienneté. Voilà. Nous avons chanté aussi à un moment donné « Tu connais nos espoirs, tu connais nos craintes. Où mettons-nous nos espoirs ?» C'est la question de ce matin. Alors, si vous me dites en Dieu, je vous dis d'accord, mais ça, c'est des réponses à l'école du dimanche. Parce qu'on a tous des espoirs quand même, j'imagine, aussi sur cette terre. Même moi, qui suis depuis un certain nombre d'années, eh bien, j'ai toujours des espoirs. Pas des espoirs, mais des espoirs. Et j'imagine que vous aussi, vous avez des espoirs que les choses changent peut-être dans votre vie, que les choses aillent mieux, que vous puissiez trouver un conjoint ou une conjointe, que votre situation financière s'améliore, que vous trouviez du travail, que vous puissiez partir faire le tour du monde que vous envisagez de faire depuis tellement d'années. Nous avons tous des espoirs sur cette terre, je crois. En tout cas, je nous le souhaite. Ce qu'il y a quand même, c'est que ben, ces espoirs, ce n'est pas une garantie. Nous n'avons pas la garantie qu'ils vont pouvoir se réaliser. Par exemple, je vous donne un petit exemple de moi-même. Il y a 2 semaines, nous devions partir 3 jours faire un tour en train dont ma femme rêvait depuis des années. On devait partir dimanche il y a 2 semaines. Et voilà que dimanche matin, dans mon lit, je n'ai pas pu me lever. J'étais comme sur un carrousel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes sur un carrousel qui tourne, 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 qui tourne. Sans arrêt, arrêt. C'est quelque chose d'assez particulier. Et ça a bien duré 2 heures. Quoi. Donc voilà, comme ça, sur un carrousel. L'ambulance avait été commandée déjà parce que je ne pouvais pas descendre les 2 étages. On va coucher au 2e étage, donc on ne pouvait pas descendre. Ma femme ne voulait pas me porter. Enfin, voilà, donc l'ambulance était commandée. Il m'a dit, elle viendra sans feu ni sirène. Et ma femme a prié avec simplicité, mais autorité, et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté et j'ai pu me lever avant que l'ambulance arrive. Donc, nous avons pu décommander l'ambulance. Et après, ça allait mieux. Et ça n'est pas revenu, ces vertiges. Voilà. Alors, on n'a pas pu faire notre tour en train. On a fait d'autres choses. Mais voilà, il y a des circonstances dans nos vies. Ça, c'est une circonstance encore sympathique, si j'ose dire. Ce n'est pas dramatique. Mais parfois, c'est beaucoup plus dramatique aussi. En fonction, on a pas mal de personnes qui sont aussi dans notre église, qui viennent de pays, qui sont réfugiés de pays dans lesquels ils sont persécutés, dans lesquels ils souffrent, dans lesquels ils ne peuvent pas vivre leur vie. Eh bien là, les espoirs qu'ils avaient mis dans les projets qu'ils avaient et tout, eh bien, ça tombe à l'eau. C'est pas possible de les réaliser. Et nous, chrétiens, eh bien, nous avons le privilège d'avoir une espérance. Une espérance. Et je vous propose de voir ce que la Bible nous dit concernant cette espérance, parce que vous allez voir, c'est assez extraordinaire. C'est fantastique. C'est quelque chose qui est motivant, qui est encourageant. Je vous propose de lire tout d'abord... Oui, ils arrivent. Dans le livre des Romains, au chapitre 8. Alors, c'est un texte, ça rejoint un peu le message que Sabine avait donné il y a 15 jours sur notre héritage, eh bien là, ça rejoint un peu, c'est notre espérance. Oui. Nous sommes enfants de Dieu. Oui, j'ai une autre version sur mon texte, c'est pour ça que je suis. Merci à mettre l'écran en face. Et vous verrez que de parler de notre espérance, ça nous permet de sortir un peu le nez du guidon. Parce que, en tant que croyant, on a passablement quand même, on est très terre à terre, on est très terrestre. Mais c'est bien, c'est important, il faut qu'on ait les pieds sur terre, on est d'accord. Mais il faut aussi qu'on puisse voir un peu, prendre un peu de hauteur pour voir ce qui se passe sur cette terre qui n'est pas des plus folichons et qui ne va pas aller en s'arrangeant ces prochains temps, de prendre de la hauteur et de voir les choses avec paix et calme. Donc, Romains 8, depuis le verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, si nous avons été rachetés par le Seigneur, bien sûr, si nous nous sommes reconnus pécheurs devant Dieu, mais également nous mettons au bénéfice de sa grâce, nous mettons au bénéfice de son salut, et ensuite marchons selon l'Esprit, c'est ce que Paul explique dans cette lettre qu'il écrit à l'Église qui est à Rome. Il encourage de marcher selon l'Esprit, c'est comme ça que l'on reconnaît les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne marchent plus selon comme avant. Il y a une différence dans la marche du croyant et la marche de celui qui n'est pas croyant. Donc si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et Paul dit ensuite, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors ces souffrances du temps présent, ben Paul, il en connaît un bon rayon, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Quand on lit tout ce que Paul a enduré sur cette terre, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit des petites souffrances qu'il a endurées. Il a été laissé pour mort, il a été persécuté, il a été lapidé. Enfin, il a vraiment souffert dans son corps, dans son âme aussi, également, de voir les églises qui, pour certaines d'entre elles, avaient tendance à partir un peu à volo, déjà à cette époque, avec des faux enseignants, des faux prophètes. Et Paul a souffert aussi en lui. Il a souffert également physiquement. Mais il dit, ben voilà, ces souffrances, ben, ce n'est pas grand-chose à comparer à la gloire qui va venir. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité ou à la futilité, à l'inconsistance, car la création était à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Santé. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est un beau texte, hein, dans lequel on voit que toute la création soupire, que toute la création C'est pas seulement les êtres humains, là. Ils sont même séparés. Les êtres humains ont droit à des versets particuliers, mais toute la création, l'ensemble de la création. Donc les animaux aussi, les plantes, l'écorce terrestre, je ne sais pas, mais tout ce qui a été créé par Dieu a été soumis à l'inconsistance, comme on l'a lu, à la futilité, à la malédiction par Dieu suite au péché de Adam et Ève. À ce moment-là, Dieu a maudit la terre. Et depuis ce moment-là, eh bien, la terre attend un moment où elle sera rachetée, où elle sera nouvelle. Nous attendons, on dit souvent, hein, on attend une nouvelle terre et des nouveaux cieux qui vont venir. Eh bien, la terre attend ce moment aussi. La terre, elle soupire après ce moment. La nature telle qu'elle est aujourd'hui, elle est différente de celle que Dieu avait prévue. Même si elle est magnifique, même si au travers de la nature, eh bien, certaines personnes peuvent se convertir, peuvent se tourner vers Dieu, elle n'est pas à la hauteur de ce, qui est, de ce que Dieu avait prévu. Elle est tombée déjà en déliquescence, en quelque sorte. Et elle attend ce moment. Et nous aussi, malgré le fait que nous ayons le Saint-Esprit, si nous sommes croyants, nous avons le Saint-Esprit, on l'a vu dimanche passé encore, eh bien, nous aussi, nous attendons. Pourquoi ? Parce que nous n'avons qu'une partie. Nous avons, il est dit, nous avons les arts, c'est-à-dire les prémices du Saint-Esprit. On n'est pas encore dans la gloire, de loin pas. On est dans cette espérance, comme on l'a lu. Nous sommes dans l'espérance. Alors, ça ne veut pas dire d'être dans l'espérance que nous allons, que notre salut n'est pas sûr. Ce n'est pas ça du tout. L'espérance, dans la Bible, ce n'est pas l'espoir, mais c'est quelque chose qui est sûr et qui est certain, mais qui n'est pas encore là. Donc, si nous avons été justifiés par Jésus-Christ, alors nous pouvons être dans l'espérance et dans l'attente sûre et certaine que nous allons être libérés de nos corps actuels pour revêtir de nouveaux corps, que nous allons vivre sur une terre nouvelle et dans des cieux nouveaux. Ça, c'est une certitude. Donc, que personne ne se dise « Ah, j'ai l'assurance, mais est-ce que j'ai vraiment l'assurance? Est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que si? Est-ce que ça ?» Eh bien, non, nous avons l'assurance. Il est dit que nous allons être entièrement délivrés de nos corps actuels, de nos souffrances d'aujourd'hui, de nos vies de maintenant. Mais nous attendons, nous sommes dans l'attente de ce moment. On n'aime pas attendre, hein ? On n'aime pas trop attendre, on aimerait que ça soit maintenant. Ben voilà, on est dans cet entre-deux où d'une part, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, et dans l'autre, nous sommes dans l'attente de cette gloire future. On va lire encore, parce que je trouve important de lire la parole de Dieu, on va lire encore un passage dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, depuis le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a régénérés ou nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, et ceci par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour votre foi. » Amen. Est-ce qu'on est réjoui par ça? Est-ce que c'est quelque chose qui réjouit nos cœurs, qui réjouit nos âmes, qui réjouit nos corps aussi, qui nous réjouit tout entier, cette espérance vivante? C'est quelque chose qui paraît parfois un peu un peu lointain. Hein? C'est un peu difficile parfois de réaliser cela, en tout cas pour nous, chrétiens du monde occidental. Et puis je me dis, mais tous les croyants qui vivent dans des endroits où il y a la persécution, où ils sont rejetés complètement, où ils sont mis à mort, ou suppliciés, rejetés de la société. Souvent, je me dis, mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour tenir et pour ne pas renier leur foi? C'est quand même assez extraordinaire. Vous êtes d'accord? Hein, les jeunes aussi. C'est cool, hein, c'est impressionnant. Là, je lisais ce matin, dans Porte ouverte au Mozambique, où une église a été détruite par les femmes. Vous imaginez un commando qui arrive ici, qui brûle l'église, qui tire avec des mitraillettes au milieu de nous. Il y a des survivants. Est-ce qu'ils vont rester, ces survivants, est-ce qu'ils vont rester attachés à Dieu? Eh bien, pourquoi est-ce que c'est possible comme ça? C'est parce qu'ils ont les yeux qui sont fixés. Ils ont cette espérance qui est vivante dans leur cœur, cette espérance qui brûle leur cœur, cette espérance qui les tient vivants, qui leur permet de vivre réellement ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre disent, ben voilà, maintenant on doit souffrir un peu, c'est pas facile, mais ça vaut la peine, parce que après, eh bien, nous serons délivrés de tout cela. Alors vraiment, c'est assez extraordinaire que cette espérance. Cette espérance, eh bien, on l'a au travers du sacrifice de la résurrection de Jésus-Christ. Paul dit, si Jésus n'était pas ressuscité, eh bien, que nous serions les plus malheureux des hommes si on croit en Jésus et puis qu'il n'est pas ressuscité. Alors, Jésus est ressuscité. Amen. Eh bien, nous avons cette espérance. Qu'en faisons-nous? Je le dis à moi-même. Mais en quoi est-ce que cela anime ma vie de tous les jours que cette espérance? Alors que c'est quelque chose qui devrait vraiment nous enthousiasmer les uns et les autres. Nous dire, waouh, il y a une espérance, c'est cool. On va aller au ciel, comme on dit. Alors après, tout dépend comment on voit le ciel aussi, hein. Si on se dit qu'on va être dans une salle ou en plein air, peut-être, parce que peut-être qu'il ne pleuvra plus, on sera en plein air, tous ensemble, en train de louer le Seigneur, de chanter pendant l'éternité. C'est vrai que là, l'éternité, ça peut paraître long, surtout à la fin. Mais c'est... Et puis en plus, qu'est-ce qu'on va chanter comme chant? On va chanter ceux d'aujourd'hui ou bien ceux du 19e siècle ou du 18e ou du 17e, du 16e? Bonne question, hein, quand il faudra se farcir des chants du 15e siècle, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Mais l'éternité, c'est quand même autre chose. Après, ce qu'on voit, c'est que déjà, on aura encore, nos corps vont ressusciter. Hein. Vous vous rendez compte? Nos corps vont ressusciter sans plus de maladies, sans plus de handicap, sans limite, sans rien, ils seront parfaits et tout. Et puis, eh bien, nous allons aussi nous réjouir, nous allons aussi manger, nous allons boire. Hein, il y a les noces de l'agneau. Et puis, on va certainement travailler aussi, je pense. On va faire des choses, on ne va pas être oisif à attendre le prochain culte. Alors, même si c'est cool quand on va dans des conventions d'avoir des réunions matin, midi et soir, c'est génial pendant 2-3 jours, hein, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il va quand même, on va rester, il y a une partie de nous qui va demeurer, mais dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, ça sera, c'est clair que c'est Jésus qui sera le centre de notre attention. Ça, il est dit aussi que les choses passées, eh bien, on va les oublier, ce qui s'est passé. Alors, comment ça sera? Je ne vous en dis pas plus parce que je ne sais pas. Et quand ça sera, Je n'en sais pas plus non plus. Mais ce n'est pas là ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nous, on se fixe chacun, on soit motivé vraiment chacun par cette espérance, ou alors nous serons glorifiés, nous serons sauvés complètement, totalement, totalement. Parce que la vie éternelle, elle ne commence pas au moment de notre mort, de notre résurrection, elle commence le jour où on se convertit. Le jour où on se convertit, on entre dans la vie éternelle déjà. On est déjà, on est sauvé et on est dans la vie éternelle. Et j'ai une pensée qui m'a passée, qui est sortie de mon esprit. Donc on vit déjà dans cette attente du moment parfait, du moment de la gloire, et nous entrons déjà dans une nouvelle dimension qui va animer notre vie, et en marchant avec l'Esprit, eh bien, cette dimension va s'enrichir, va toujours plus se développer. Donc nous sommes appelés à commencer dès aujourd'hui notre vie éternelle. D'accord ? Bon, je pense qu'on l'est tous, vous l'êtes tous. Hein ? Allez, on le disait. Mais vraiment, que nous soyons encouragés là-dedans. Et là encore, eh bien, c'est Pierre, je vais encore me référer à cet ami Pierre, dans sa première lettre toujours, qu'il a écrit. Il écrivait à des chrétiens qui étaient persécutés. Hein, n'oublions pas, Pierre, ils n'étaient pas tranquillement installés comme nous ici. C'était des chrétiens qui étaient persécutés. Et il leur écrit toujours dans le chapitre 1, depuis le verset 13. Voilà, puisque nous avons cet héritage qui nous attend, qui ne va pas pourrir au fond d'une grotte. Eh bien, il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Alors, ça veut dire quoi, cindre les reins de son entendement? Ça, c'est ces expressions. Hein. Si vous avez des Bibles de 1910 et avant, vous aurez cette expression. Mais ici, dans 2 Timothée 1, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Cindre les reins, c'était ce que faisaient les hommes dans l'Antiquité qui portaient des tuniques, hommes et femmes, nous aussi, messieurs, nous avions des longues tuniques, et il fallait mettre une ceinture pour faire tenir et pour qu'on ne s'encouble pas quand on devait partir, marcher précipitamment. Et du reste, c'était déjà un ordre qui avait été donné aux Israélites dans le pays d'Égypte, pour la Pâque, quand ils allaient être délivrés du pays d'Égypte, eh bien, le Seigneur leur avait dit de cindre leurs reins, d'être prêts à partir. Et là, c'est les reins de notre entendement, donc ce n'est pas de mettre une ceinture à la taille, c'est bien utile pour faire tenir les pantalons, mais c'est vraiment d'avoir notre attention qui est focalisée sur le Seigneur, d'être concentré sur le Seigneur, sur cette espérance de la résurrection, l'espérance de nos vies. Soyez sobres, soyez sobres. Ce n'est pas seulement de ne pas trop boire d'alcool, mais c'est d'une manière générale de ne pas se laisser distraire par tout ce par quoi on peut se laisser distraire. Et il y en a des choses, et il y en a, oh là 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 là. Sans même parler des réseaux sociaux, mais de toutes les nouvelles qu'on reçoit, des pensées qui nous traversent aussi. C'est incroyable, hein ? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai plein de pensées qui me traversent. Je me dis, mais ça vient d'où ça ? C'est quoi ? C'est pas possible. Et il faut se recentrer sur le Seigneur. Aussi, ne pas lire 36 000 choses, écouter 36 000 messages à droite ou à gauche, évidemment. Parce que, comme vous le savez, de toute façon, on va trouver que si on se laisse, on va comme ça sur les réseaux sociaux, bien on va trouver que des choses qui nous conviennent. C'est ça qui est extraordinaire et hyper dangereux, avec les algorithmes de l'intelligence artificielle, c'est que si vous allez sur Facebook, vous aurez des notifications qui vous arrivent, qui vont exactement dans votre sens. Vous dites, ouais, c'est génial, tous ces gens qui pensent comme moi. Et puis, Christian, par exemple, qui est un fan de Facebook, je n'en sais rien, ben, il aura d'autres notifications que moi. On aura tous des notifications différentes qui vont dans notre sens. On se dit, c'est génial, tout le monde pense comme moi. Puis après, on se referme entre personnes qui pensent la même chose. Et puis, on s'isole parce qu'on a tellement raison. On a tellement raison de penser ce qu'on pense. Quand on voit ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on entend, on a tellement raison. Et puis, en fait, ben, notre vue est limitée. Hein. On voit en tunnel. On ne voit plus de toute la largeur de notre vision, mais ça se concentre en tunnel. Vous savez, il y a des maladies comme ça qui font qu'on ne voit qu'une partie en tunnel. Ben, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Donc, soyons prudents et mettons notre focus vraiment sur la parole de Dieu. Donc, soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà, c'est là notre espérance et c'est là que nous sommes appelés à la mettre parce que c'est une certitude. Parce que Dieu ne change pas, il est le même hier ou aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qu'il a dit il y a 2000 ans ou 3000 ans ou davantage encore, eh bien, ça ne change pas, c'est sûr, c'est certain, c'est un roc qui ne change pas. Et donc, nous pouvons nous appuyer sur cette espérance. Nous pouvons nous appuyer sur cette espérance. En enfant obéissant que vous êtes, que nous sommes, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Wow, c'est quand même sérieux, hein ? C'est quand même sérieux, c'est-à-dire que nous sommes appelés, et ce sont des injonctions, ce sont des impératifs, c'est pas... Wow, c'est bien si vous pouviez être saint quand même. Faites un effort, c'est cool. Dieu nous appelle vraiment à vivre d'une manière qui soit conforme à son esprit. Et ça, c'est une discipline aussi, parce que ce n'est pas notre nature. De nature, on n'est pas du tout comme ça. Et puis, une fois qu'on se convertit, ben, tout ne change pas d'un coup. Hein. Tac, vous êtes une créature nouvelle. Oui, mais il faut vivre dans cette créature nouvelle. Il faut vivre dans cette créature nouvelle. Ce n'est pas tout ce qu'on fait maintenant, même si c'est la même chose que ce qu'on faisait avant, eh bien, c'est qu'on vit, qu'on est des créatures nouvelles. Il y a un changement. Il y a un changement dans nos vies, dans nos pensées. Nous en sommes là. Il y a encore quelques versets à lire, depuis le verset 16 ou 17. 17, je crois. Ah oui, mais c'est dans la suite. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence, hein, il n'y a pas des favoris ou des personnes qui sont mises sur le carreau, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc voilà, nous sommes peu de temps sur cette terre. Hein. On est comme l'herbe qui sèche, puis ensuite qu'on jette. On fleurit. Quand tout va bien, on fleurit un petit moment. On est comme une fleur, c'est beau. Mais après, on sèche. Voilà. Mais vraiment que nous puissions vivre comme étrangers sur cette terre. Nous ne sommes plus de cette terre. Nous ne sommes plus de cette terre. Nous sommes citoyens du ciel. Donc, montrons les signes du royaume de Dieu sur cette terre. Manifestons-les au travers de nos vies, de nos paroles, que ce soit quelque chose qui puisse toucher les autres, qui puisse encourager les autres. Ne cherchons pas à réformer le monde, hein. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. De toute façon, il va à sa perte, et on le sait. Mais que nous puissions, au travers de nos vies, au travers de nos paroles, eh bien, être témoins de l'amour de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas, et que nous puissions également manifester un amour fraternel. Voilà, ça va ? Oui ? Tout le monde n'est pas encore endormi ? Non ? C'est bien. Alors vraiment que cette espérance puisse brûler dans nos cœurs aux uns et aux autres. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui es cette espérance. Tu nous dis aussi dans ta parole, cette espérance, Jésus-Christ. Nous avons cette espérance que tu nous donnes, qui est sûre, qui est fiable, qui ne changera pas. Alors Seigneur, que nos vies puissent être conduites, gouvernées par cette espérance, qui est comme une ancre, que nous puissions vraiment porter nos regards, non pas sur nos circonstances actuelles, mais sur toi, Jésus, sur toi, Jésus, qui es dans le ciel, toi qui vas manifester ta gloire à un moment donné, toi qui vas te révéler encore à l'humanité tout entière, toi qui vas revenir sur cette terre. Alors, Seigneur, que nous qui te connaissons, eh bien, nous puissions manifester cette espérance, que nous soyons toujours prêts à répondre de l'espérance qui est en nous aussi, avec douceur, avec calme. Seigneur, merci pour cette espérance. Et ce matin, quand il y a des personnes qui n'ont pas cette espérance, eh bien, c'est encore le moment de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur est prêt à accueillir toute personne qui vient à lui. Quoi que nous ayons fait, quelles que soient nos pensées, quoi que nous ayons vécu, eh bien, le Seigneur nous rejoint ce matin les uns et les autres. Alors vraiment que je prie que s'il y a des personnes qui n'ont pas cette espérance du salut, eh bien vous puissiez vous tourner vers le Seigneur encore ce matin. Que vous puissiez vraiment être touchés, vous laisser toucher. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que c'est encore le jour du salut. Alors merci Seigneur pour ta manifestation par l'action de ton esprit encore dans nos vies ce matin. Amen.